Bonne soirée.
Écoute!
Wow!
Le hockey vous manque? Envie d'avoir des nouvelles de la LNH? C'est prolongation. Tout ce qui touche le hockey, de près ou de loin. Avec Martin McGuire et Danny Dubé. Au 98.5.
Bonne fin d'après-midi, bon samedi, bienvenue à cette autre édition de Prolongation le 24 octobre. Beaucoup de choses encore une fois sur le menu aujourd'hui. On reviendra sur les propos de l'entraîneur Claude Julien qui a rencontré les médias en fait pour la première fois depuis les nombreuses nouvelles acquisitions que son patron Marc Bergevin a fait au cours des dernières semaines. Le marché des joueurs autonomes est maintenant vieux de plus d'une semaine là et il reste encore quelques bons candidats qui n'ont pas été embauchés par aucune des équipes de la Ligue nationale. On va essayer de voir, bien sûr, avec Danny, qui sont les joueurs intéressants qui restent sur le marché. Des joueurs autonomes avec restrictions qui n'ont pas d'entente contractuelle avec leur équipe respective. Des joueurs aussi talentueux que Anthony Manta et Pierre-Luc Dubois, qui représentent des pièces maîtresses pour la construction, pour la composition de leurs équipes respectives. Il y a aussi d'autres candidats. On va tenter de voir, bien sûr, avec Danny, quels sont les joueurs les plus pressants pour leurs équipes, mais au-delà de ça, quelles sont les équipes qui doivent se méfier d'une possible offre hostile. Parmi les nouvelles de la semaine, avant de vous présenter Danny, les Blackhawks de Chicago ont imité les Rangers de New York il y a 2 ans, et ils ont publié dans les journaux de Chicago une lettre expliquant qu'ils vont procéder à une reconstruction et qu'ils sont rendus à cette étape et que c'est la raison pour laquelle notamment ils ont laissé partir Crawford et Saad, qui étaient deux joueurs respectés et très aimés du public à Chicago. On va essayer de voir parmi les équipes qui ont fait des resets et des reconstructions, comment ça s'est passé, surtout quand ça a été annoncé, expliqué comme ça au public. On va essayer de connaître les tenants et aboutissants, tout ça. Puis il y a un parallèle intéressant à faire avec le fameux reset du Canadien de Montréal. N'est-ce pas, Danny Dubé?
Salut Martin.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Écoute, on a quelques sujets intéressants. Je présentais ces sujets-là. Puis évidemment, on va revenir aussi sur les enjeux d'une première réunion très importante pour les 31 directeurs généraux de la Ligue nationale. Cette réunion se tient donc après la période des joueurs autonomes et après les assises, le repêchage qui a été virtuel. Là, on est à préparer la suite, Danny. Les hauts dirigeants de la Ligue nationale semble avoir des plans sur la table et là, on va donner les informations puis on va discuter des enjeux. Ça aussi, Danny, plus tard dans l'émission, ce sera un sujet qu'on va aborder.
Oui, ben en fait, il y a plusieurs éléments intéressants qui vont sortir de cette réunion. Moi, j'ai bien... Il y a quelques éléments qui m'interpellent. Évidemment, là, le championnat du monde junior avec la pandémie, tout ça, comment c'est... comment on va gérer ces choses-là? Qu'est-ce qui se passe avec les joueurs de Ligue américaine, les joueurs juniors? Toute la panoplie de gymnastique ou de situations qui forcent la gymnastique, dis-je bien, des différentes équipes à travers cette espèce de bordel qu'on vit là. Écoute, sur le plan administratif, c'est vraiment difficile à gérer pour les équipes, sans compter le calendrier, retour à la compétition, etc.
Et bien évidemment, Danny, quelqu'un que tu connais très bien, qui est maintenant député libéral dans l'opposition du gouvernement québécois, oui, a présenté cette semaine une loi visant à abolir les bagarres dans les ligues juniors québécoises. On parle bien sûr de la LHJMQ et aussi, bien sûr, de la Ligue junior 3A. La Ligue midget 3A en est en quelque sorte exclue parce que il n'y a pas de bagarres dans cette ligue-là là, qui sont permis d'aucune façon. Alors, on va explorer avec toi, on va faire réentendre également les propos de Enrico Cecconi qui s'est expliqué sur l'essence même du projet de loi qu'il a présenté et la pertinence à ce stade-ci de présenter un projet comme ça, considérant les efforts assez notables qu'a fait la Ligue de hockey junior majeur du Québec dans le département. Sans plus tarder, on va écouter quelques extraits du point de presse, du très long point de presse, Danny. En passant, là, Claude Julien était dans une forme resplendissante. Il a l'air à s'ennuyer du hockey, de la compétition. Puis, juste un commentaire bref de ta part, parce que, évidemment, t'as été entraîneur, Danny, mais quand t'es coach, quand ton directeur général t'a amené des cadeaux, là, que t'as amené des nouveaux joueurs qui améliorent ton équipe, c'est sûr que Claude Julien, on voyait l'impatience dans son visage lorsqu'on a eu ce point de presse virtuel jeudi.
Oui. Ouais, ben déjà, c'est comme de dire voici la nouvelle voiture, les clés sont là, la voiture est dans le est dans le garage. Tu fais juste la regarder et t'as hâte d'aller l'essayer. C'est un petit peu ce qui se produit avec Claude Julien. Je pense qu'il est très excité des modifications, et fébrile à l'idée de pouvoir diriger cette équipe-là. Je pense qu'il y a une équipe qui lui ressemble de plus en plus. Il y a des joueurs plus costauds. Je pense pas que l'entraîneur a un préjugé défavorable par rapport aux petits joueurs. Je pense que c'est le mélange qu'il aime avoir. Et c'est ce qui me fait dire que il y a plusieurs éléments sur lesquels on va parler tout à l'heure, où Claude est très satisfait. Puis je pense qu'en cours de route, si l'entraîneur est capable d'obtenir ou s'il doit faire une distinction entre certains joueurs, je vais te parler, moi, d'après moi, pourquoi il va préférer certains plutôt que d'autres. S'il a laissé partir des joueurs.
D'abord, un premier extrait, parce que c'est clair que les acquisitions de Toffoli, acquisition d'Anderson et aussi du défenseur Edmundson, et bien sûr l'arrivée de Jake Allen au poste de gardien numéro 2, donne de la profondeur pour le Canadien là, en partant de l'arrière, devant le filet, jusqu'en avant. C'est un peu ce qu'a expliqué Claude Julien. Nous l'écoutons immédiatement.
On avait un bon gardien. Maintenant, on a un gardien... Allen qui est capable de donner du repos à notre gardien numéro 1, et puis ça va nous donner la chance de bien reposer Carey. C'est que déjà là, on est une équipe encore meilleure à la défense. Comme j'ai dit, on est allé chercher l'expérience, on est allé chercher donc du gabarit. On a quand même 4 trios là qui risquent d'être très compétitifs. On peut facilement éliminer la ligne numéro 1, la ligne numéro 2 et la ligne numéro 3. Je pense que ça va être une question de quel trio qui va jouer le mieux durant des matchs. C'est ça la beauté, je pense, maintenant de ce qu'on a à l'attaque, c'est qu'on peut bouger des joueurs ici et là puis continuer à avoir des bons trios.
Il avait envie de le dire, Danny. On avait l'impression qu'il avait envie de nous passer un message, les représentants des médias. Là, parlez-moi pas de la première, de la deuxième, de la troisième ligne. La première ligne, c'était la ligne de Dano, Gallagher et Tatar. Jusqu'à maintenant, c'est encore intact, du moins sur papier, ce trio-là. Est-ce qu'il y aura vraiment trois trios sur un pied d'égalité, Danny, à Montréal, ou si pour toi, il va y avoir encore une ligne 1, 2, 3 dans les faits?
Dans les faits, c'est très difficile de prédire s'il va y avoir une ligne 1 à cause de l'âge des joueurs de centre.
Ouais.
C'est beaucoup plus facile si tu as un joueur de centre de premier plan, établi dans la Ligue nationale, qui a fait ses preuves. C'est facile de dire ce gars-là va pivoter notre premier trio.
Comme par exemple le Lightning avec Braden Point, à titre d'exemple pour nos auditeurs.
Ben, Braden Point qui quand même a émergé cette année en l'absence de Stamkos. Mais prenons, prenons Stamkos en santé. Bon, si t'as Stamkos dans ton alignement, ce serait un peu gênant de dire qu'il n'est pas sur ton premier trio.
Ça, c'est clair. Ou tu lui demandes de lever sa clause non-échange puis tu règles le problème.
Non, mais tu comprends ce que je veux dire, hein, Martin?
Oui, absolument.
C'est quand même ça. Là. L'idée, c'est un petit peu ça. C'est que je pense que Claude Julien est dans une situation où ça va être très difficile pour lui de dire « Voici mon trio numéro un. » Et si Philippe Dano était plus prolifique offensivement, encore une fois, l'équation serait plus facile à faire.
Et soit dit en passant, il n'y a toujours pas de rapprochement dans les négociations entre le camp Philippe Dano et le Canadien de Montréal. Ça aussi, ça va être un dossier à explorer très bientôt, Danny. Mm-hmm. Ce qui a fait dire à l'entraîneur du Canadien, Claude Julien, qu'au moment où on se parle, selon son évaluation d'entraîneur, son équipe peut jouer contre n'importe quelle autre formation de la Ligue.
J'aimerais penser que cette équipe-là est plus à notre image. Puis, quand j'ai notre image, l'organisation, même tu sais, les partisans, etc., tu veux bâtir une équipe compétitive, tu veux avoir un petit peu de tout. On a des joueurs comme Gallagher, le cœur de notre équipe, quand tu le regardes jouer, c'est peut-être un plus petit gabarit, mais il a le cœur d'un lion. Tu as un gars comme des Josh Anderson, des Armia, qui, eux, ont la grosseur, puis le gabarit, justement, pour être bon le long des rampes. Je me sens très confortable avec le groupe de joueurs qu'on a à notre disposition d'être capable de jouer contre n'importe quelle équipe, d'être capable d'apporter notre plan de match et de bien l'intégrer.
Ça, c'est important, Danny, parce que, bien évidemment, l'équipe commence à avoir un meilleur mélange de joueurs. Là, tu as des joueurs physiques, et rapides, tu as des fabricants de jeux, tu as des joueurs qui potentiellement peuvent compléter des jeux. Là, je pense à Gallagher autour des filets, je pense à Anderson, Toffoli. Faut pas non plus diminuer les capacités et le potentiel de Jonathan Drouin dans ce département-là non plus, là.
Non, écoute, c'est sûr que je veux juste revenir peut-être te parler rapidement de l'acquisition de Jake Allen parce qu'il en a fait état puis il a dit ça va nous, ça va aider notre gardien de but numéro un puis ça va dans le sens de, du niveau de compétition de l'équipe. Tu sais, Jake Allen, là, c'est un gardien de but qui a, lorsqu'il a été utilisé moins de 40 matchs, on va dire ça comme ça, ses chiffres sont vraiment impressionnants, Martin. Et l'an passé, il a joué 21 matchs, il y a 12 victoires, il a accumulé 27 points sur 30, sur 40, sur une possibilité de 42. Si le Canadien réussit à obtenir ça, ben déjà ils sont en avance parce que les gardiens de but de réserve depuis quelques années ont rarement joué en haut de 500 et rarement permis justement d'aller chercher ces points, les points en extra au-delà de la marge de 500 qui maintenant n'est même plus la marge de respectabilité. Donc ceci étant, on est une équipe plus lourde, on est meilleur devant le filet, on est meilleur à la défense, on a des gros ailiers, quelque chose qu'on n'avait pas. Tu sais, on passait beaucoup de temps dans le territoire défensif parce qu'on était embouteillé en deuxième période. Combien de fois dans les reportages nous avons mentionné cet aspect ensemble en disant, bon ben là, en deuxième période, les sorties de zone, ça va être plus difficile, etc.
Le banc est plus loin,
Bon, exactement, le banc est plus loin, les défenseurs sont plus fatigués, ont de la difficulté à protéger la rondelle à cause des gabarits. Ben là, ça, c'est des éléments qui vont militer en faveur d'une meilleure performance de façon générale et surtout d'une plus grande constance durant la saison.
Et bien évidemment, Danny, Claude Julien en a fait état de cet élément fatigue. Il a dit déjà en série, quand Kotkaniemi s'est mis à jouer du bon hockey, Suzuki, Dano et tout ça, puis qu'on a pu rouler là, des trios, là, déjà Claude Julien avait observé que son équipe avait une plus belle énergie en troisième période dans la série contre les Pingouins et même celle contre les Flyers qui s'est pas terminée à l'avantage du Canadien malheureusement. Alors imaginez maintenant avec les ajouts que l'équipe a fait, ça c'est clair qu'à ce moment-là, le Canadien va mieux pouvoir terminer des matchs, orchestrer des remontées ou même protéger des avances. Danny, on va en parler de plus amples détails, bien sûr, avec les situations de Chicago et de New York dans les prochaines minutes dans cette émission prolongation, mais un petit décompte rapide, là. Si on inclut les prospects McCarron, Sherbach et Learnout, qui étaient quand même des gars importants pour le futur du Canadien, là, si on inclut ces trois-là, le gardien de but Niemi et le gardien de but Montoya, depuis l'annonce du fameux reset à la fin de la saison 2017-2018, il y a 16 joueurs qui ont quitté l'organisation du Canadien et qui ont été remplacés par d'autres. Je vais vous faire entendre Claude Julien sur la nécessité que ce reset a eu pour placer l'équipe dans la position potentielle où elle est là aujourd'hui en ce 24 octobre.
Je pense qu'il y avait des affaires qu'il fallait changer. Tranquillement, on le fait, mais c'est sûr qu'on a souffert un peu avec ça. Les partisans n'ont pas vu une équipe de hockey qui était assez bonne pour faire partie des séries jusqu'à cette année, mais on commence à voir la lumière là, au bout du tunnel, puis on parle encore toujours des Suzuki, des KK, etc., mais un bon noyau de jeunes joueurs qui s'en vient que dans mon estimation, je pense que c'est une équipe qui va être bon pour plusieurs années.
Danny, évidemment, le Canadien n'a pas, comme on le disait tout à l'heure, le Stamkos, le Point, le McDavid, ce joueur concession là, qui amène tout ça puis qui prend ça sur ses épaules. Alors, visiblement, c'est en comité, c'est avec une profondeur sur trois trios, peut-être même quatre, que le Canadien va vouloir faire le travail avec deux gardiens de but. Ça a été établi. Mais quand on importe des joueurs de l'extérieur puis qu'on les amène dans un club comme ça, Il faut trouver une façon de faire lever le gâteau. Là, Toffoli a de très bonnes intentions. On le voit dans les entrevues qu'il donne aux médias et tout ça. Il a choisi de venir à Montréal. Josh Anderson voulait sortir de Columbus. Montréal lui offre un contrat quand même très intéressant et un nouveau départ. Même chose pour Edmundson qui était plus ou moins désiré avec la Caroline. Là, il arrive au meilleur de sa carrière. Jake Allen a fait le constat. Je suis un gardien numéro 2. Mais Danny, ces gars-là vont être en périphérie du noyau dur. Le noyau dur qui est Petrie, Weber, Carey Price, Brandon Gallagher. Comment on les intègre? Est-ce que tu penses qu'il y aura un défi et est-ce qu'il y aura à l'interne ce qu'on pourrait appeler des luttes de hiérarchie avec l'arrivée des nouveaux? Ça, il va falloir que ça se place pour qu'il y ait des résultats concrets.
Ouais, ben écoute, ça va dépendre de beaucoup de la progression de Kotkaniemi. Je pense que c'était important que le jeune Kotkaniemi soit dans l'action et qui est lors de son retour au jeu qu'on n'ait pas assisté vraiment à un feu de paille durant les séries, mm-hmm. tu comprends? Oui. Qu'on ne soit pas déçu de sa prestation tôt en saison l'an prochain. Parce qu'on voilà. Clairement, là, on n'aura pas une saison complète. On est presque à 100% sûr de ça.
En bon québécois, ça ressemble à Bing Bang, on joue, là. Ça pourrait ressembler à ça.
Exactement. Et donc, oui. Moi, je pense que la qualité de l'équipe va passer par la stabilité dans la ligne de centre. Lorsque c'est l'entraîneur ça. A fait référence aux séries l'an passé et de la qualité du jeu de son équipe, c'est directement relié au fait qu'il a pu utiliser la ligne de centre adéquatement, ses trois premiers centres. Et ultimement, je pense que Jake Evans a surpris tout le monde, a été en mesure de leur donner juste assez de hockey pour garder tout ça à flot.
Ouais. Et bien évidemment, cet équilibre-là est toujours menacé par des blessures. Là, je veux pas conjurer le sort. Il y a beaucoup d'enthousiasme chez les amateurs. Je veux pas être casseur de party, mais ça aussi, c'est quand même un élément qu'il faut prendre en ligne de compte. Alors, si jamais l'équilibre de la ligne de centre était menacé par une blessure, les épaules frêles de Kotkaniemi risquent d'être encore plus sollicitées. Ça aussi, dans l'analyse, Danny, il faut évidemment le considérer. C'est une variante qu'il faut considérer. On ne sait pas à qui ça va arriver, mais on sait que ça pourrait arriver. On a parlé d'intégration de jeunes. Claude Julien en a parlé. Visiblement, là, pour la prochaine saison, là, c'est Romanov qui sera la jeune recrue intégrée dans cette équipe-là. Romanov, on le sait, Danny, on le voit dans le top 6. Claude Julien lui a fait une place dans son top 6. Il va nous expliquer essentiellement pourquoi Romanov, qui n'a pas donné un seul coup de patte dans la Ligue nationale, dans la tête de Claude Julien, a une place dans le top 6.
C'est un gars que, même dans les deux tournois mondiaux juniors, il était dominant. Mais aussi, ça fait 2 ans qu'il joue professionnel. Je serais surpris s'il ne débutait pas la saison avec nous, avec toutes les choses qu'on a vues de lui déjà. Écoute, on a eu l'occasion aussi de le voir aussi durant les séries là, avec... le groupe de joueurs avec qui il s'entraînait, là, tu voyais quand même qu'il était quand même un gars quand même fort, un gars prêt, un gars qui avait de l'expérience avec des joueurs de ce calibre-là. Alors, tu sais, on le voit plus dans notre équipe que non.
C'est intéressant, Danny. Visiblement, ils ont vraiment, mais vraiment envie que ça marche. Les éléments sont là, mais ça va être énormément de pression sur les épaules d'un jeune homme qui a seulement 21 ans.
Oui, mais rapidement, je te dirais que sur une troisième paire, il sera pas trop exposé.
Avec Kulak potentiellement?
Pardon, oui, effectivement.
Avec Kulak potentiellement. Là.
Effectivement. J'aurais été beaucoup plus inquiet si on avait parlé de lui à l'intérieur des deux premières paires, celles qui vont être exposées. Et l'arrivée d'Edmundson, je pense, va venir pallier à cette instabilité créée par l'arrivée d'un jeune joueur.
Est-ce que justement le fait que Kulak a quand même joué du hockey très solide malgré la COVID-19 dont il a été victime pendant les séries te donne à penser que il va être bien entouré peut-être notre ami Romanov étant donné que Kulak joue du bon hockey depuis un an?
Autour de lui, les joueurs sont plus gros et plus expérimentés. Donc, ça va lui permettre d'amener cet élément de complémentarité qu'il possède. Okay. C'est un joueur qui est dynamique, une bonne première passe, rapide, pas nécessairement le plus costaud du groupe, mais c'est lui qui va amener une dimension de, je pense, de stabilité dans le jeu. Et je tiens à le répéter, là, on est plus dans le McDonough que dans le Sergachev, là.
Exactement.
Si les gens veulent avoir une comparaison.
Exactement. Tu fais bien de le dire, parce que Romanov ne démontre pas qu'il a un potentiel d'explosion offensif. Là. C'est vraiment un gars qui va être bon dans les deux sens de son travail de défenseur et un gars qui va pouvoir faire des passes adéquates. Mais quand même, on dit que sa rapidité pour passer du point A au point B va le rendre efficace pour défendre dans la Ligue nationale. Oui. D'ailleurs, Danny, on disait que quand il jouait dans la KHL, ces deux dernières années, Marc Bergevin m'avait dit dans une entrevue, il a l'air d'un défenseur nord-américain. Il joue à la nord-américaine.
Ouais, ben écoute, c'est là, il faudra qu'il joue à la nord-américaine avec des nord-américains.
Des petites patinoires.
J'y vais pour les
plus gros garçons. Puis un style agressif, hein, tu sais, oui. Vraiment là.
Les plus linéaire.
Ça s'en vient dans le visage des défenseurs ici, dans la Ligue nationale. Oui, effectivement. Rapidement pour les deux autres sujets avec Claude Julien. Il y a eu des allégations de manque de communication avec l'entraîneur Claude Julien, avec la direction de l'équipe pour trois gars qui ont quitté la formation ces dernières semaines. Max Domi, qui est parti à Columbus dans la transaction Anderson. On a mis une croix sur Charles Hudon. Il est en Suisse maintenant avec le HC Lausanne. Il a parlé de ça aussi. Et Carl Osner, qui a été libéré par le Canadien, a dit « On savait jamais trop vraiment à quoi s'attendre. » Claude Julien a dit « Moi, j'ai parlé à tout ce monde-là. J'ai pourtant été clair. Puis de toute façon, je pourrais jamais plaire à tout le monde. On l'écoute. »
Là, vous parlez à des joueurs que, disons, ça n'a pas nécessairement fonctionné. Puis on a discuté avec tous ces joueurs-là, on leur a mis clairement le rôle, ce qu'on s'attendait d'eux, etc. C'est difficile de plaire à tout le monde. Je dirais pas que je suis déçu parce que ces personnes-là, les trois personnes que tu as mentionnées, c'est toutes des bonnes personnes. C'est des athlètes qui sont quand même fiers, puis tu sens le besoin de te défendre un peu. Alors, je comprends ça.
Ça, c'est un entraîneur d'expérience qui en a vu d'autres, Danny, qui répond comme ça. Là.
Non, mais écoute, il l'a dit, là, tu peux pas faire plaisir à tout le monde.
C'est sûr.
Tout le monde a une fierté. Tu arrives dans la Ligue nationale, écoute, les joueurs qui... c'est pas des joueurs qui avaient été développés par le Canadien de Montréal. C'est des joueurs
d'autant
qui sont
arrivés
par le biais de transactions ou par l'autonomie. Donc, il y a un petit sentiment de fierté. Ils arrivent. Mm-hmm. Bon, là, écoute, c'est des joueurs attendus. On sait le bruit que ça a fait autour de Domi, ce qui s'est amené à Montréal.
Ouais. Puis Osner aussi.
Et Osner, ben écoute, c'est un gros salarié. C'est un gars qui était supposé d'amener une dimension qu'on cherche toujours, ouais. C'est-à-dire celle de stabilité puis de première passe, que Romanov va probablement, d'ici quelques années, être en mesure d'offrir aux Canadiens.
Et qu'on espère que Edmundson puisse faire en transition en attendant
soit prêt à
le faire. Là.
Tout à fait. Mais écoute, tout ça pour dire que l'entraîneur sait très bien que lorsque le joueur a été racheté ou lorsqu'il a été échangé, c'est rare qu'il va dire des bonnes choses. Il va dire, hey, c'est tout de ma faute, là. C'est très rare que ça arrive, ça.
Ouais, quand ça va pas bien, souvent, on regarde autour avant de se regarder dans le miroir. C'est un sentiment.
Martin, oui? je termine oui? en disant ceci.
Oui.
Dans le cas d'Alzner, il n'y avait pas preneur, donc
non.
Visiblement, le message que le Canadien avait envoyé, lui, il ne l'a pas saisi, puis il n'y a personne d'autre qui veut tenter sa chance.
Mm-hmm. Même chose pour Hudon, mais avec
Charles, malheureusement, est en Suisse.
Ben,
heureusement, parce que bon, il poursuit sa carrière-là, puis c'est correct. Ça veut dire qu'il n'était pas capable de répondre aux attentes d'une équipe sur une base régulière dans la Ligue nationale. Il y a une différence entre jouer un match et jouer dans la Ligue nationale. Et dans le cas de Domi, ben... peut-être que là, c'est lui qui va se retrouver dans un problème de communication, mais...
Oui.
Parce que l'entraîneur va parler au journaliste avant de lui parler.
parce que l'entraîneur Tortorella communique énormément, Danny.
Oui, avec les journalistes.
Il communique beaucoup. Oui. Avec beaucoup de points d'exclamation parfois quand il y a des choses à dire. Ça va être intéressant de voir.
S'il trouvait que Duclair savait pas jouer, j'ai hâte de voir ce qu'il va dire sur Domi.
Ça va être intéressant de voir le ménage Domi et Tortorella à Columbus. Des étincelles à prévoir. Danny, le format de la division canadienne a voyagé de Vancouver à Terre-Neuve dans le temps de le dire. Si la Ligue nationale avait autorisé M. Foley a lâché un petit ballon pour voir si ça marchait, cette affaire-là. C'est chose réussie. Les amateurs partout au Canada, les joueurs canadiens, les coachs canadiens en ont parlé avec beaucoup d'enthousiasme. Ça a été le cas de Claude Julien encore, qui lui dit, attention, là, ça va être une division très compétitive si ça se concrétise pour le Canadien.
J'ai déjà regardé la situation, là, puis honnêtement, c'est sûr que si on décide d'aller avec une division canadienne, seulement le fait de retourner au hockey, ça va faire du bien, là. Mais je peux vous dire que les équipes canadiennes, là, sont pas mal tous fortes. Ça risque d'être une division quand même très, très compétitive. On sait que Ottawa sont dans un stage de reconstruction, si tu veux. Ça veut pas dire qu'ils ne sont pas compétitifs. Mais le restant des équipes là croient tout en leur chance de faire les séries, c'est que je peux dire que les gens risquent de voir du hockey très excitant et très compétitif.
Danny, on l'a dit la semaine dernière, on prévoit que le Canadien puisse bien s'accommoder si c'était la solution retenue par les directeurs généraux et la direction de la Ligue de former une division canadienne et de former trois divisions américaines. Le Canadien a quelque chose pour se mettre en valeur parmi les autres équipes canadiennes.
Ah ben oui, écoute, c'est ça. Il y a pas de problème sur la qualité du Canadien face aux équipes canadiennes. Je te dirais que ils sont même avantagés dans un format comme celui-là par rapport à leur division. Moi, je trouve que leur division là, écoute, elle est vraiment très compétitive. Puis
Toronto, ouais.
Ouais.
Qu'on va retrouver quelques clubs de l'Atlantique dans la division canadienne, mais
oui,
moi, ce que je pense, là, à prime abord, sur papier, Danny, si on réunissait les sept clubs canadiens, là, le Canadien est le meilleur gardien de but des sept clubs canadiens, là, sans contredit.
Sûr.
Et celui
c'est
qui
sûr.
S'approche peut-être de lui, c'est Hellebuck avec les Jets, puis Hellebuck ne bénéficie pas d'une protection, du moins à ce jour, le 24
non.
octobre, aussi adéquate que non. Price a à Montréal.
La brigade défensive là et le gardien de but de réserve, il n'y a pas photo. Là. Le Canadien est loin devant. Donc, toute cette portion-là où le Canadien a peut-être plus de questions à se poser en attaque, mais plus d'incertitudes. Par contre, à la défense, il y a beaucoup de stabilité. Puis je pense que lorsqu'on arrive dans les grands matchs, c'est cette stabilité-là, on l'a vu l'an passé avec Toronto. Là. Si
ça,
on n'a pas ça derrière, même si tu as toute la force de frappe, c'est l'équilibre entre les deux qui est important.
On va s'arrêter pour quelques messages, mesdames, messieurs. Au retour, nous allons entrer incognito dans les bureaux de messieurs Bergevin et Julien. On va essayer d'observer le tableau des trios avec Danny. On va essayer de voir qui seront les joueurs interchangeables, qui sont les joueurs qui risquent de bouger et tout ça. Et bien sûr, également à venir à cette émission, les reconstructions. Les équipes qui ont annoncé leur reconstruction, où ils en sont. Le Canadien qui n'a pas annoncé de reconstruction, mais qui a quand même fait un mouvement assez spectaculaire au niveau de son personnel. On va traiter ce dossier-là avec Danny en parallèle avec les Rangers et Chicago qui maintenant annoncent à ses partisans qu'ils font une refonte presque complète de leur équipe. Restez avec nous. Prolongation se poursuit dans un instant.
Vous écoutez Prolongation. Prolongation. Avec Martin McGuire et Danny Dubé au 98.5.
Nous sommes de retour à l'émission Prolongation. Évidemment, les derniers mouvements de personnel chez le Canadien ont initié plusieurs discussions. Le propriétaire Jeff Molson s'est confié à nos amis et collègues de la presse au cours de la dernière semaine. On a parlé d'attente, Danny, puis je vais arriver là immédiatement avant d'aller jouer dans le tableau des joueurs de Claude Julien dans son bureau et dans celui de Marc Bergevin parce que tout ça est lié aux attentes. Et M. Molson a dit, ben inévitablement, avec les investissements qu'on a fait avec le personnel qu'on est allé chercher, nos attentes vont augmenter parce que l'année passée, il avait parlé d'une période de 3 à 8 ans pour avoir une équipe compétitive. Je le trouvais très patient quand il parlait de 3 à 8 ans, mais là on dirait que les événements se bousculant comme ça, les opportunités arrivant pour le Canadien, la fenêtre, il n'aime pas ça ce mot-là, là, mais la fenêtre pour obtenir du succès se rapetisse un petit peu pour les dirigeants de l'équipe.
Ouais, ben, moi, là, pour être bien honnête, là, je pense que Tu sais, à un moment donné, quand on nous parle d'un plan, puis on nous dit, bon, on fait un reset, ouais. La transition, reset, reconstruction, toujours la même affaire, Martin.
Ouais.
Mais arrive à un moment donné, une échéance, moi, je me souviens très bien, puis je le partage avec nos auditeurs, parce que nous, on a eu, à un moment donné, notre discussion, là, comme on a souvent en dehors des ans. Oui. Puis là, ben, je t'ai dit, écoute, c'est le fun, les 24 équipes, là, mais c'est un peu un cadeau empoisonné pour le Canadien de Montréal, parce qu'ils vont être obligés d'accélérer leur processus. Souviens, je te parlais de ça. Avant même le début des séries, puis des bulle et toute la patente. Là. Mais là, on en est là. C'est que tu peux pas ignorer le fait que le Canadien a eu un certain succès en série, même s'ils n'avaient pas mérité totalement leur place en série. Le système à 24 équipes va peut-être perdurer une autre année. Peut-être qu'il va avoir un précédent. Peut-être qu'on va dire « Hey, savez-vous quoi? Ça a bien été. C'est la formule de l'avenir. » C'est trop compétitif en saison. Il faut trouver une manière de rentrer plus d'équipes en série.
Ah, ben, moi, je suis convaincu, Danny, qu'au moins l'an prochain, ça va être encore 24 équipes.
Oui,
convaincu de ça.
Ben, oui, mais ça pourrait continuer parce que, à un moment donné, tu vas vouloir plus de revenus. Les équipes vont dire, écoute, c'est pas facile. Il faut ramener le monde dans les gradins.
Ça pourrait arriver, effectivement.
Ça pourrait arriver. Donc, peut-être qu'il y a des choses que nous, on sait pas, mais une chose certaine, c'est que, quand on regarde ça au total, il fallait absolument presser sur l'accélérateur, se servir du momentum créé par cette participation aux séries et le succès. On est tous contents du succès du Canadien. Maintenant, il faudra répéter. Et pour répéter, ben là, peut-être que le directeur général, c'est après discussion avec son entraîneur et du propriétaire, dit, ben écoutez, là, pour répéter, il va falloir que, tu sais, il faudra que. Alors, on en est là. On a dépensé de l'argent, puis je pense qu'on va y avoir du mouvement de personnel aussi.
Absolument. Et Danny, bien évidemment, combiné à tout ça, il y a la réalité contractuelle de messieurs Bergevin et Julien. Claude et Marc ont des contrats qui vont se terminer techniquement après la saison 21-22. Dans le monde de la Ligue nationale, tu laisses rarement ton entraîneur ou ton directeur général entamer une dernière année de contrat. Tu décides avant sa dernière année de contrat s'il va partir ou s'il va rester. C'est valide autant pour un que pour l'autre, pour le gérant général et l'entraîneur. C'est comme ça que ça se passe. Ça affaiblit leur position de leadership si on les laisse travailler dans une dernière année de contrat. En ce sens-là, Danny, c'est pour ça que la prochaine saison, il faut que le gâteau lève.
Ah ben oui. Ah oui, parce qu'à un moment donné, là, on peut dire ce qu'on veut, expliquer de la façon dont on veut, mais on est dans un monde de résultats. Mm-hmm. Et tout le monde est d'accord avec le fait qu'il faut bâtir, que ça prend des jeunes, etc., etc. Mais bon, force est d'admettre qu'aujourd'hui, l'équipe qu'on a, que présente le Canadien de Montréal, c'est pas une équipe qui a été bâtie par le repêchage. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de mouvements de personnel, mais on arrive à échéance dans certains cas. Donc, il faut vraiment avoir des résultats. Les meilleurs joueurs de l'équipe sont les joueurs les plus vieux. Actuellement, on peut pas dire les meilleurs joueurs de l'équipe, il y en a des jeunes.
Non.
Tout le monde nous parle de Kotkaniemi, ça va, nous parle de Suzuki, ça va.
Pas tout de suite.
Pas tout à fait maintenant.
Ouais.
Alors, on est encore à se dire, si on veut profiter de l'opportunité qui est présente, qui est là maintenant, ben il faut entourer les joueurs avec les meilleurs joueurs, donc les joueurs plus vieux, avec des gars qui peuvent donner des résultats plus rapidement. Alors, ça explique l'arrivée des joueurs que tu as mentionné tout à l'heure.
Dans une réalité, Danny, comme celle-là, le Canadien était bien positionné d'avoir des gars d'expérience et de vécu comme le sont Claude Julien et Marc Bergevin. Qu'on soit d'accord ou non avec eux, avec leurs décisions et tout ça, là, on doit reconnaître que c'est deux gars d'expérience. Alors, dans ce contexte-là, le Canadien est bien positionné par rapport à ce fait-là. Là.
Mm-hmm. Ah ben oui, écoute, il n'y a pas de... Moi, au niveau de la direction de l'équipe, le mouvement personnel, les trucs-là, je trouve... On en a parlé souvent, je trouve que c'est quand même pas mal. Là où le bas blesse, c'est que le Canadien réussit pas à faire l'acquisition de jeunes joueurs par le biais du repêchage amateur.
Mais voilà.
Et ça ralentit le développement des gars, ça rend le travail, ça rend la vie très difficile aux gars qui travaillent dans la Ligue américaine. Et ça, ben, je pense que c'est là où la prochaine étape de réévaluation devra avoir lieu. Devra être capable de faire un examen très clair de ce qui s'est passé au cours des dernières années, puis dire, parce que, tu sais, quand t'as des troisième, quatrième, cinquième choix au repêchage au total, puis ces gars-là rentrent pas dans ton alignement ou rentrent difficilement dans ton alignement ou deviennent pas des joueurs dominants,
ça met une pression énorme. Absolument. Oui. Danny, avant de passer à la pause publicitaire, dernier point concernant Jeff Molson. Il a dit que cette crise crise financière, cette crise qui touche le milieu du divertissement en raison de la COVID, là, fait mal à l'entreprise du groupe CH, la division spectacle, la division hockey, mais il a quand même dit... On peut encore passer à travers. Tu sais, nous autres, là, 6-8 mois encore, on peut passer à travers ça, puis l'entreprise sera pas en difficulté. Mais c'est clair que quand on parle d'une fenêtre de 6 à 8 mois, c'est important que pour le Canadien que bientôt la rondelle tombe de nouveau, peu importe le format et peu importe la façon.
Ben, tu sais, moi, j'ai été toujours un peu surpris de d'entendre qu'on est capable de survivre encore un certain temps quand l'argent rentre pas dans les coffres. Je suis pas surpris pour Toronto, Montréal, certaines non. équipes de la Ligue nationale.
Mais
c'est
autres,
peut-être le tiers de la Ligue. Ouais. C'est peut-être 10 équipes là, qui sont capables de passer à travers, qui ont les reins assez solides, comme le dit l'expression. Donc, oui, effectivement, ça, je suis pas surpris d'entendre que Jeff Molson est considéré d'avoir la bulle à Montréal s'il y a des bulles qui sont créées, d'avoir la possibilité de mettre un peu de monde dans les gradins, etc., etc. Tout ça, c'est de nature à créer de l'enrichissement là, dans les circonstances, on peut dire ça comme ça. Alors, Martin, après la pause, si tu veux bien, j'aimerais ça quand même voir au niveau du mouvement personnel, parce que ça restera pas comme ça. Là. Il y a quand même des choses qui vont se passer. Puis, par rapport à l'arrivée de Toffoli et Anderson, à un moment donné, avoir des grosses décisions à prendre.
C'est ce qu'on aborde au retour des messages. Vous écoutez Prolongation.
Vous écoutez Prolongation. Prolongation. Avec Martin McGuire et Danny Dubé au 98.5.
À venir à notre émission, il sera question des reconstructions annoncées, comment ça s'est passé dans certaines villes, comment ça se passera pour certaines équipes qui en ont fait l'annonce, dont Chicago, et comment ça s'est passé pour le Canadien, même si on a refusé d'appeler ça une reconstruction. Danny, avant la pause, tu voulais nous amener, en fait, dans les enjeux qui arriveront bientôt avec l'arrivée de Toffoli, Anderson, qui sont des contrats à long terme, des contrats de 4 saisons dans un des cas et de 5 dans l'autre. Tatar sera à terme, il n'est pas encore renouvelé. Dano n'est pas toujours renouvelé. Et même chose pour Joel Armia. Toffoli peut jouer à gauche, peut jouer à droite. Armia peut jouer à gauche, peut jouer à droite. Il va y avoir un petit jeu de chaise musicale. Oui. Puis ça va provoquer des décisions, Dany, parce que Marc Bergevin l'a dit, il ne pourra pas tous les garder.
Il ne pourra pas tous les garder. Puis je trouve que de plus en plus, ce qu'on semble voir comme tendance dans la Ligue nationale, les directeurs généraux aiment bien avoir des joueurs polyvalents. Mm-hmm. Même quand ils produisent offensivement, tu es capable de dire, OK, je vais vivre avec un joueur qui est vraiment très, très offensif. Je vais lui donner un gros salaire. Il amène une dimension qu'on a besoin. Un Pasternak de ce monde, des gars comme ça. Mais de façon générale, lorsque tu as des joueurs qui sont parmi tes 6 premiers attaquants, donc qui se positionnent là, ces joueurs-là, ils donnent de l'avantage et du désavantage numérique. C'est des gars qui sont fiables défensivement, donc les fins de match et tout ça. Tu veux pas voir toujours ta quatrième ligne sur la glace parce que c'est tes joueurs les plus fiables. Ou ton
ce qui est le cas de Toffoli. Toffoli répond à cette définition-là, Danny.
Exactement. Toffoli et Anderson font ça. Et là, ça m'amène à dire, bon, là, Marc Bergevin vient de signer ces deux gars-là quand même pour une assez longue période. Et ça lui coûte 9,7 millions pour les deux.
Au total.
Il va avoir des décisions à prendre très rapidement avec Tatar qui lui coûte 4,8. Et éventuellement, Drouin à 5,5, deux gars qui ne sont pas utilisés ni en désavantage numérique, ni dans les fins de match.
Alors eux, c'est 5-5 et jeu de puissance.
Donc, évidemment, là, dans l'éventualité où tu as des décisions à prendre, ça fait que chaque dollar te coûte cher. Alors, ce que ça veut dire, c'est de deux choses l'une. Ou ces gars-là deviennent très, très, très fiables défensivement, ou ils augmentent leur production offensive de façon significative pour justifier... Dans le cas de Drouin, ils sont 5,5 millions. Et dans le cas de Tatar, ces demandes salariales qui vont être quand même assez élevées lors de la prochaine négociation.
Ouais. Et bien évidemment, Danny, je le disais en début d'émission, il va y avoir des remous là-dedans parce qu'il va y avoir un positionnement. Les gars qui arrivent vont vouloir faire des étincelles, bien se positionner. Claude Julien va devoir les mettre dans un bon environnement pour produire et tout ça. Puis c'est inévitable, là. Il y a quelqu'un qui va se faire tasser, Danny.
Ouais, ben en fait, je pense que le grand perdant dans tout ça, c'est pas le Byron. Là. C'est, mm-hmm. Si on regarde froidement la situation, Byron et Lekkonen vont jouer sur le quatrième trio. Je vois pas Claude Julien placer autre joueur sur le quatrième trio. Là, j'en serais grandement étonné, à moins qu'il soit vraiment, vraiment pas content. Je dis pas qu'un soir, ça arrivera pas. Mais pour moi, les six premiers attaquants sont, pour l'instant, là, si on parle de, mettons que la saison commence dans deux semaines, là, ben, moi, je pense que la première ligne du Canadien change pas. Toffoli jouera en compagnie d'Anderson et de Suzuki. En tout cas, a priori, Keke avec Armia et Drouin. Et donc, ton quatrième trio devient Byron, Lekkonen et Evans. Et là, c'est un quatrième trio qui est quand même pas très lourd, avec une connotation défensive quand même importante. C'est des joueurs qui sont fiables. Mais est-ce que ça va durer? J'en sais trop rien. Moi, je pense que les gens parlent beaucoup de Paul Byron comme un gars qui pourrait partir. Moi, je le vois moins, ça. Il reste deux autres années à son contrat. C'est un joueur important.
C'est plus lourd un peu, là. Puis il a été blessé dernièrement. Ça va être pris en considération par les équipes. Mais tu devançais un petit peu ma prochaine question parce que Marc Bergevin n'a pas envoyé le message qui continuait. Mais je te la pose la question. Est-ce qu'il continue de chercher? Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il pourrait se présenter à lui une opportunité auquel il pourrait pas dire non? Au moment où on se parle. Avec l'équipe qu'il a, là.
Au moment où on se parle, s'il est capable d'aller chercher un joueur qui lui coûte moins cher ou un joueur qui lui plaît, il peut transférer du salaire. Tu sais, c'est un petit peu l'exercice qu'on faisait tantôt au Toffoli Anderson. Il vient d'aller chercher de la stabilité puis il a sauvé 5 millions, là. Drouin et Tatar, je parlais de Drouin et Tatar. Tatar arrive à échéance, c'est à 4.8.
Ouais.
Si t'es capable d'aller chercher un gars qui va te donner le même rendement que Tatar, qui cadre dans ton groupe, qui est peut-être un peu plus costaud parce que ça semble être la tendance actuellement, là. Il lui reste 2 ans à son contrat, ben peut-être que Marc Bergevin est tenté d'aller dans une direction comme celle-là pour aller chercher de la stabilité et comme ça s'assurer de pas faire face à de la surenchère. Parce que on le sait, là, dans le cas de Tatar, s'il veut une augmentation de salaire, s'il veut du long terme, dans le contexte actuel, comment on va faire pour lui donner ça.
Ça serait surprenant. Ben c'est ça. Puis
Péling joue à l'aile, il peut pas jouer sur un premier trio. Donc, Drouin doit vraiment saisir cette opportunité-là pour essayer de gagner des échelons à gauche parce que si Péling s'amenait, il pourrait jouer sur un troisième trio peut-être à l'aile gauche. Tu sais,
à moins qu'il le voit au centre plus sur le quatrième trio, ça reste à voir. Il reste pas beaucoup de temps, Danny, puis je peux pas te laisser aller sur le dossier canadien sans te parler de Philippe Danault. On n'entend pas beaucoup de choses. C'était silence radio à la fin de cette semaine en ce qui a trait aux négociations. Est-ce que tu entrevois la possibilité de voir Philippe jouer sa dernière année de contrat ou si ultimement, à minuit moins 10, on va trouver une façon de prolonger le contrat sans toucher à la dernière année?
Écoute, honnêtement, ça va dépendre de ce que Philippe veut avoir, parce que c'est clair que le Canadien veut garder Philippe Danault. C'est une question. L'enjeu, c'est qu'on a signé, on a réglé des contrats avant de donner l'argent à Danault.
Ouais.
Donc là, maintenant, c'est sûr que les nouveaux standards font que bon, on est à 5.5, on navigue autour de 5.5, 6 millions. Écoute, ça commence à faire beaucoup d'argent là.
Ouais.
Pour le type de joueur qu'il est, même s'il apporte une dimension, je pense que le Canadien ne peut pas se passer.
Qui est indéniable chez le Canadien, c'est ça.
Il ne peut pas
c'est
se passer ça. De Philippe Danault.
Et on peut pas penser que Jesperi Kotkaniemi va monter les marches deux par deux. Ce serait de très mauvais calcul de le faire. Ça pourrait arriver, mais de le calculer comme ça, ce serait pas très prudent, Danny, rapidement. Là.
Non, c'est ça. Donc, c'est pour répondre clairement à la question, est-ce qu'il va commencer l'année à Montréal? Si c'est ça la question, c'est oui. Est-ce qu'il va avoir un contrat en poche? À ce point-ci, c'est extrêmement difficile de dire oui. Je pense qu'il va commencer, mais il n'y aura peut-être pas le contrat qu'il désire.
On s'arrête, mesdames, messieurs, on poursuit. Prolongation dans un instant après les messages que voici.